Bonjour et bienvenue dans ce 15e épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Dans cet épisode, je vous parle de la transmission du féminin, c'est-à-dire de ce que chaque femme reçoit en héritage de sa famille, comme croyances et ressentis en lien avec sa féminité et qui impacte la construction de son identité de femme. Vaste question. Impossible d'en faire le tour le temps d'un épisode, j'ai donc choisi de me concentrer sur les aspects que je rencontre le plus dans mes accompagnements. Pour mémoire, chacun d'entre nous, les hommes comme les femmes, est constitué d'une part d'énergie féminine et d'une part d'énergie masculine. C'est le yin et le yang de la tradition orientale. L'énergie féminine, le yin, est caractérisée par la sensibilité, la réception, l'écoute, la douceur, l'intuition, la capacité à soigner, à materner. Tandis qu'à l'énergie masculine, yang, on attribue plutôt des qualités comme la force, l'action, l'autorité, le contrôle, la protection. En fonction de notre personnalité, de notre vécu, mais aussi bien sûr de ce que nous avons reçu de nos parents et de nos ancêtres, ces énergies s'équilibrent différemment en nous. Dans cet épisode, je m'intéresse plus spécifiquement à la transmission de la féminité à travers les générations. La toute première transmission qu'une fille reçoit, dès sa conception, est celle de la mémoire ancestrale des femmes qui l'ont précédée. Même si dans l'histoire de l'humanité et dans certaines cultures, la femme a été reconnue et valorisée, l'avènement du patriarcat a laissé dans l'inconscient collectif les stigmates de l'écrasement et de la dévalorisation de la femme. Jusqu'à une époque très récente, les femmes n'avaient pas de droits. Pour mémoire, le droit de vote des femmes, c'est 1945. Et pas de valeur autre pour la société que celle de faire des enfants destinés à devenir des soldats. Et à ce sujet, je trouve très intéressante l'analyse du psychanalyste transgénérationnel Bruno Clavier quand il dit que nous payons aujourd'hui la condition féminine de nos ancêtres, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre la vision moderne de la femme et celle qui prévaut dans notre inconscient, qui, elle, reste empreinte des représentations et des ressentis négatifs et dévalorisants de nos ancêtres par rapport à la féminité. En naissant femme, nous arrivons donc déjà avec un premier bagage que nous allons transformer en fonction de notre contexte familial, socioculturel et bien sûr de notre expérience personnelle. Au sujet du contexte socioculturel justement, je voudrais dire quelques mots sur la représentation de la féminité qui a prévalu et prévaut toujours dans certains milieux de notre société. La femme féminine serait celle qu'on voit dans les médias, plus particulièrement les publicités, la femme jeune, sexy, mince, apprêtée, maquillée, qui conditionne l'image que les femmes et les hommes se font de ce que devrait être la féminité. Alors qu'en réalité, je peux avoir tous les attributs sociaux de la féminité, mais ne pas me sentir femme. Et inversement, me sentir profondément remplie d'une énergie féminine, sans pour autant rentrer dans ces stéréotypes. Bref, chaque femme développe sa féminité à sa façon, et quand elle se sent carencée ou blessée dans son énergie féminine, il est intéressant d'aller explorer ce qui lui a été transmis du féminin par les générations précédentes. Avant de se pencher sur le poids de la famille, un petit rappel sur la construction de l'identité. Le principal mécanisme en jeu dans le processus de construction identitaire est l'identification. L'enfant s'identifie tout d'abord à sa mère, puis à son père. Il construit sa personnalité en les imitant, il les prend comme modèles, mais aussi en introjectant, c'est-à-dire en intégrant et faisant sien le regard qu'il porte sur lui. Et comme l'enfant cherche leur amour à tout prix, il va s'adapter totalement à ce que ses parents attendent de lui. La petite fille va donc créer son identité de femme en relation avec sa mère, en imitation, puis à l'adolescence en opposition, qui elle-même l'avait construite en relation avec sa propre mère, et ainsi de suite. C'est pourquoi Bruno Clavier nous dit dans son livre « Les fantômes de l'analyste » Une femme ne naît pas femme, elle le devient par identification aux générations antérieures. Sans oublier bien sûr le rôle capital du père dans ce processus, puisqu'il est le premier homme dans la vie d'une femme. Tout comme la mère, le regard que le père porte sur sa fille dépend non seulement de son propre vécu avec les femmes, de ses attentes, mais aussi de ses croyances et ressentis dont il a lui-même hérité des générations antérieures. Quand on s'interroge sur la transmission de la féminité, la première question à se poser est donc, quelles femmes ont été nos mères, nos tantes, nos grand-mères, nos arrière-grand-mères? Quel regard mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père a-t-il porté sur les femmes? Quelle image de la femme l'inconscient familial a-t-il véhiculé? Et donc, de quelle image de la femme ai-je hérité? Dans certaines familles, être une femme, c'est correspondre au cliché sociétal de la femme que j'ai évoqué précédemment. Dans d'autres, les femmes ont toujours été négligées, soumises ou mises de côté. Dans d'autres encore, les femmes ont toujours été très masculines dans leur façon de s'habiller ou de se comporter. Dans certaines familles, jusqu'à une époque récente, il était capital d'avoir un garçon, un héritier mâle pour transmettre le nom et parfois reprendre l'exploitation ou l'entreprise familiale. Et les filles étaient considérées comme de moindre valeur. Il m'arrive régulièrement d'entendre en consultation des femmes âgées de 40, 50, 60 ans me dire en parlant de leur relation avec leurs parents ou leurs grands-parents « Ah oui, mais vous comprenez, moi, c'était différent de mon frère, j'avais le tort d'être une fille. » On trouve ainsi dans les familles toutes sortes de croyances exprimées ou traduites dans les attitudes au sujet de la féminité, comme « une femme, c'est fragile, les filles, ça pleure tout le temps, les femmes, c'est fait pour faire des enfants, avoir une fille, c'est moins bien qu'avoir un garçon. » Les filles sont moins intelligentes. Parfois même, les filles, c'est sale. Sans compter toutes les croyances au sujet de la sexualité de la femme que je n'évoquerai pas ici puisque j'y consacrerai un épisode. Ce sont aussi bien les hommes que les femmes, les pères que les mères, les grands-pères que les grands-mères qui véhiculent plus ou moins consciemment ces croyances dans la famille par leurs mots et leurs attitudes. L'anthropologue Françoise Héritier insistait d'ailleurs sur le fait qu'à l'origine de l'oppression des femmes se trouve notamment l'autodévalorisation des femmes de génération en génération. De manière plus insidieuse, dans certaines familles, il ne semble pas y avoir de prime abord de différence de considération entre hommes et femmes. Et pourtant, à y regarder de plus près, les jeunes filles sont par exemple invitées à faire des études plus courtes ou à se marier plus rapidement. En fonction de l'histoire familiale, ce sont parfois les grands-parents qui ont tendance à privilégier plutôt les garçons, ce qui peut se traduire par exemple par des partages inégaux de l'héritage, et ce qui peut créer une croyance durable dans la famille que les femmes valent moins que les hommes. Se pencher sur l'histoire des femmes de sa famille permet donc de comprendre quelles sont les forces qui ont été agissantes en nous dans la construction de notre propre identité de femme, et plus précisément, d'identifier les croyances visibles et invisibles au sujet de la féminité dans notre famille, ainsi que les injonctions qui ont pesé sur nous. Parmi les femmes que j'accompagne qui ont des difficultés à se connecter à leur dimension féminine, il y a tout d'abord toutes celles qui ont été attendues et accueillies comme des garçons. Autrement dit, pour ceux et celles d'entre vous qui ont écouté l'épisode sur le projet Sens, ce sont des filles qui ont été programmées pour être des garçons. En plus des attentes d'avoir un garçon en vertu de la suprématie des hommes sur les femmes que j'ai évoquées plus tôt, la situation la plus classique est celle où les parents ont déjà plusieurs filles et attendent avec impatience un garçon. J'ai rencontré ainsi une jeune fille qui souffrait de se sentir comme un homme à l'intérieur, dernière née d'une fratrie de 4 filles, que les parents avaient chargée d'être le petit garçon tant attendu, ce qui avait fait d'elle ce que le langage populaire appelle un garçon manqué. C'est le cas aussi lorsqu'un garçon est décédé in utero ou en bas âge et que la fille qui naît après le décès est chargée de le remplacer. Ce fut le cas de Camille Claudel, élevée comme un garçon par sa mère. C'est le cas aussi lorsqu'un garçon était attendu pour remplacer un autre garçon décédé dans les générations précédentes. Et de manière plus inconsciente, l'histoire familiale peut créer une interdiction d'être une fille qui se transmet de génération en génération. Ainsi, lorsque l'histoire familiale est marquée par le décès brutal de fillettes à la naissance ou en bas âge, le message retenu par l'inconscient familial est « il ne faut pas avoir de fille car les petites filles, elles meurent ». Il arrive d'ailleurs que les femmes des générations suivantes n'aient que des garçons, évacuant ainsi le risque de perte d'une petite fille. J'ai accompagné une femme qui avait le sentiment de ne pas avoir été aimée par sa mère et qui avait remarqué qu'elle avait été élevée plutôt comme un garçon. En explorant son histoire familiale, elle a découvert que son arrière-grand-mère avait perdu sa petite sœur et sa première fille et qu'elle avait mis en nourrice et écarté de la famille sa seconde fille qu'elle avait eue bien des années plus tard. Comme si elle avait inconsciemment décidé qu'aimer une petite fille, c'était décidément trop douloureux. À compter de ce premier rejet, par le processus de transmission transgénérationnelle, les mères de cette famille n'ont plus pu aimer leur petite fille qu'en les considérant comme des garçons. Lorsqu'elles sont attendues comme des garçons, ces filles sont élevées, non pas dans la valorisation de leur qualité féminine, mais au mieux dans une sorte de neutralité de genre, ou au pire, carrément, comme des garçons. C'est-à-dire dans la négation de leur identité de femme. Jusqu'à une période récente, il n'était pas rare que certaines de ces fillettes habillées et coiffées comme des garçons, entrent dans l'adolescence sans aucune connaissance sur le fonctionnement du corps féminin, en particulier sur les règles. Et nombre d'entre elles gardent un souvenir douloureux du jour où elles ont découvert du sang dans leurs culottes et où leur mère leur a tendu une serviette hygiénique sans rien leur expliquer. Les conséquences sur la construction de l'identité sont très variables en fonction du vécu de chacune, de leur rencontre ou non avec d'autres modèles féminins. Ces femmes peuvent développer à l'âge adulte une énergie masculine prédominante, avec une façon de s'habiller, une allure et des attitudes globalement plutôt masculines, sans que ce soit forcément problématique pour elles. Mais elles peuvent aussi avoir adopté tous les codes féminins et pour autant se sentir asexuées ou avoir des difficultés à s'accepter en tant que femme, ce qui souvent est plus problématique. On peut trouver chez ces femmes des symptômes physiques et psychiques en lien avec le rejet inconscient de la féminité, comme un dérèglement hormonal, une acné persistante, des règles douloureuses, de l'anorexie ou de la boulimie, et bien sûr des difficultés d'ordre relationnel et sexuel. Sans prise de conscience et travail sur elles-mêmes, elles transmettront leurs blessures du féminin à leurs propres filles, et ainsi de suite. Au-delà de ces situations où la fille porte dans son projet sens la mission d'être un garçon, il existe aussi des familles où les filles sont d'emblée déniées dans leur féminité en raison de l'histoire familiale. Dans les familles où les femmes ont été abusées sexuellement ou violentées, non seulement les fillettes portent en elles les ressentis douloureux par rapport à la féminité des femmes qui les ont précédées, je vous renvoie à ce sujet à l'épisode sur les transmissions invisibles, mais elles peuvent même recevoir l'injonction inconsciente de leur mère et de leur grand-mère « ne sois pas une femme ». Et on peut voir là, d'ailleurs, une des possibles explications de la répétition des abus de génération en génération qui est constatée par tous les psychogénéalogistes et psychanalystes transgénérationnels. Puisqu'inconsciemment, je ne considère pas ma fille comme une femme, je ne lui transmets pas les clés pour se protéger des prédateurs sexuels. D'autant que bien souvent, les abus sexuels, viols et violences sont gardés secrets, créant ainsi un interdit de savoir auxquels se confrontent les femmes de la lignée, alors qu'elles portent en elles les traces émotionnelles de ces abus et violences. Durant leurs accompagnements thérapeutiques, ces femmes expriment souvent un sentiment inexpliqué de honte d'être une femme, une impression diffuse d'être sale, des difficultés à s'épanouir dans leur sexualité et un sentiment de culpabilité inexpliqué. D'autres femmes ont développé, en réaction, une énergie très masculine, comme s'il fallait se protéger instinctivement. Avec le risque que cette domination de l'énergie masculine se transforme en animus négatif, pour reprendre les termes de Jung, c'est-à-dire que leur vie relationnelle soit dominée par des rapports de force qui, à terme, les feront souffrir. Cet impact transgénérationnel des abus est très bien illustré dans le film « Ces liens invisibles », dont je mettrai le lien en commentaire de cet épisode. Par loyauté aux femmes de leur famille, certaines femmes peuvent vivre leur féminité dans la souffrance. J'accompagne ainsi régulièrement des jeunes femmes qui ne se sentent pas l'autorisation de s'épanouir, de jouir des plaisirs de la vie, et qui découvrent en explorant leur histoire familiale des grands-mères ou arrière-grands-mères qui ont été veuves très jeunes, n'ont pas fait le deuil de leur mari, se sont enfermées dans une infinie tristesse et ne se sont pas autorisées à vivre leur vie de femme autrement qu'à travers leur rôle de mère. Dans d'autres familles, les veuves de guerre se sont retrouvées seules avec de nombreux enfants à nourrir, parfois une ferme à gérer, et ont développé une énergie masculine dominante pour pouvoir tout gérer, en oubliant parfois leur dimension féminine. À travers ces différents exemples, on voit bien comment ensuite c'est un modèle de féminin blessé ou tronqué qui s'est transmis de génération en génération. Et il peut être très difficile de prendre ses distances par rapport à cette façon de vivre sa féminité, puisque plane toujours la menace, inconsciente, d'être rejetée par le clan. Les femmes qui ressentent des difficultés avec leur féminité évoquent aussi parfois le sentiment d'avoir été en rivalité avec leur mère. Certaines mères, en fonction de leur vécu personnel et de leur relation avec leur propre mère, peuvent avoir des difficultés à voir leur fille s'épanouir en tant que femme. C'est comme si leur fille, par sa beauté, sa jeunesse, pouvait faire de l'ombre à la femme qu'elles sont. Ce sont des mères qui, par réaction à leur propre peur de vieillir et de ne plus plaire, vont étouffer et détruire la féminité de leur fille, avec par exemple des humiliations en public au moment où elles ont leurs règles, ou des critiques permanentes sur leur apparence physique, avec des remarques directes. « Tu as vraiment des mains de bûcheron. Ma pauvre, t'as vraiment pas de chance avec tes cheveux. C'est quand même dommage ce grain de beauté sur ton menton. » Ou des remarques un peu plus insidieuses du style « C'est fou ce que tu ressembles à ton père. » Au-delà des blessures du maternel dont souffrent très certainement ces mères maltraitantes, que j'évoquerai dans un prochain épisode, et des questions de jalousie qu'elles peuvent ressentir par rapport à leur relation que leurs filles entretiennent avec leur père, il arrive qu'on retrouve dans le roman familial l'histoire d'une fille et d'une mère amoureuse du même homme, ou d'un homme en couple avec la mère qui la quitte pour épouser sa fille. Ce qui véhicule dans l'inconscient familial des ressentis et des croyances autour de l'idée que mère et fille sont rivales. Ces femmes, humiliées et rabaissées par leur mère, peuvent être hyper féminines dans leur apparence, comme pour mieux se rassurer dans le regard de l'autre, puisqu'au fond d'elles prévaut une image dégradée de la féminité. C'est aussi dans le regard de son père qu'une fille construit son identité féminine, puisqu'il est, comme nous le rappelle le psychanalyste Alain Braconnier, le premier homme de la vie d'une femme et qu'il joue un rôle essentiel dans l'acceptation et la valorisation de ce qu'elle est, notamment de sa féminité. Sans développer toute la complexité des relations qui unissent un père à sa fille, ce qui n'est pas le sujet de cet épisode, il est important de souligner notamment que le regard du père sur sa conjointe est capital dans la construction de l'identité sexuée de sa fille. Si ce regard est dévalorisant, si le père, en raison de son histoire familiale ou personnelle, méprise son épouse ou les femmes en général, la petite fille puis l'adolescente aura toutes les peines du monde à construire sa féminité. Toutes les projections que le père fera sur sa fille, en fonction de ses propres représentations du féminin, toutes les attentes qu'il aura vis-à-vis d'elle, sa façon de s'investir auprès d'elle, auront des répercussions sur sa féminité. Une fille a besoin de lire l'admiration et la fierté dans le regard de son père. Elle a besoin de trouver une confirmation heureuse de sa féminité, nous dit encore Alain Braconnier. À noter que pour être aimée de leur père, qui aurait préféré un garçon ou par réaction à un père absent, négligent ou au contraire trop autoritaire, certaines femmes développent, ici encore, une énergie masculine forte, une attitude dominante, s'investissent à fond dans le travail ou dans le sport, jusqu'à en oublier parfois leur féminité. L'idée n'est pas du tout de juger ces femmes guerrières, celles qu'on surnomme les Amazones, mais plutôt de souligner l'importance de s'interroger sur les raisons de ce développement si fort de l'énergie masculine, qui, si elle est réactionnelle, reste un lien avec l'histoire familiale et ne va pas dans le sens du libre arbitre. Pour aller un peu plus loin et rentrer dans la psychanalyse transgénérationnelle concernant ce qu'on appelle la triangulation père-mère-fille, Didier Dumas a mis en évidence dans son ouvrage « Sans père et sans parole » que l'absence du père, physiquement ou psychiquement, à une génération, engendre une surreprésentation de la fonction maternelle, qui a pour conséquence une destruction de la féminité dans les générations suivantes. Il évoque une souveraineté du maternel au détriment du féminin. Pour lui, lorsque le père est absent, sa conjointe, qui ne s'incarne alors que dans sa fonction de mère, devient incapable de contacter sa propre féminité et de répondre aux questions de sa fille à ce sujet, qui elle-même deviendra incapable de répondre aux questions de sa propre fille sur la féminité et la sexualité. Ce vide de transmission au sujet du féminin se traduit par toutes sortes de symptômes à la troisième génération. Ce sont des femmes qui vont être sujettes aux crises d'angoisse ou à des symptômes physiques inexpliqués à la moindre contrariété avec leur propre mère, qu'elles ne peuvent pas remettre en question puisqu'elles ont été le plus souvent de bonnes mères, à tout le moins par rapport au père qui lui n'était pas là ou présent seulement pour administrer des coups. Ces symptômes que l'on qualifiait autrefois d'hystérie sont en réalité la manifestation de ce qui n'a pu être mis en mots dans leur enfance avec leur mère. Lorsqu'une mère ne peut, face à sa fille, s'assumer femme, elle la prive du modèle dont la petite fille a besoin pour se construire et de ce fait la condamne à l'hystérie, nous dit Didier Dumas. Voilà pour un bref tableau des situations dans lesquelles c'est un féminin blessé qui est transmis. Difficile de faire une liste exhaustive puisque chaque situation est unique et que la question de la transmission du féminin est largement enchevêtrée à celle de la transmission du maternel. Ce qui me semble important, en tout cas, c'est de mettre au travail cette question de ce qui nous a été transmis du féminin pour pouvoir inventer et vivre notre propre féminité dans une harmonie féminin-masculin qui favorise à la fois notre épanouissement personnel et notre vie de couple. Et si vous souhaitez approfondir cette question de la reconnexion au féminin en vous, je vous invite à lire le livre de la psychanalyste jungienne Clarissa Pinkola Estes, intitulé « Femmes qui courent avec les loups », dans lequel, à travers les mythes et les contes, elle nous emmène à la rencontre de la femme sauvage, cette force naturelle instinctive riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial que nous portons tout en nous. Pour en savoir plus sur l'accompagnement que je propose, à distance ou en cabinet, n'hésitez pas à consulter mon site internet sophieduverne.com. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie.